Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour Jean-Noël.
Et d'abord, on va parler des propriétaires qui continuent à acheter des panneaux solaires pour leur maison à des niveaux jamais vus.
Oui, tout à fait. C'est assez incroyable parce que, bien sûr, le solaire, l'énergie renouvelable, qu'il a en train de remplacer de plus en plus l'énergie traditionnelle qui vient du charbon et d'autres choses. Mais là, presque un tiers de chaque maison, de chaque domicile en Australie a des panneaux solaires. Et donc, c'est le plus haut taux au monde. Et on a vu là, l'année dernière, 3 000 MW de panneaux solaires ont été installés sur les toits des Australiens. Donc c'est incroyable et on a vu que ça monte et ça monte chaque année l'une après l'autre. Et en fait, ces 3 000 MW, c'est plus d'énergie que la plus grande centrale électrique de charbon qui existe en Australie, en Nouvelle-Galles du Sud. C'est Eraring Coal-Fired Plant qui est opéré par un groupe qui s'appelle Origin Energy. Donc là, on voit qu'en fait, ces 3 000 MW, c'est l'équivalent de 360 000 clients autour de l'Australie. Donc si chaque année, il y a autant de gens qui mettent des panneaux solaires sur leur toit, on va voir presque la moitié des Australiens avec des panneaux solaires dans quelques années. Donc c'est vraiment assez étonnant, on peut dire. Aussi, la taille des panneaux solaires qu'ils mettent sur leur toit grandissent parce que en moyenne, ils sont à peu près 8 kW, mais il y en a de plus en plus qui sont 10 ou 15 kW. Ça veut dire qu'on voit de plus en plus d'énergie qui est attrapée par chaque maison et ils peuvent l'utiliser eux-mêmes ou ils peuvent le revendre au système. Donc au réseau électrique, mais donc ça c'est bien pour chaque domicile, c'est-à-dire qu'ils ont moins à payer pour l'électricité parce c'est eux qui créent leur propre électricité, mais aussi ils l'utilisent pas tellement pendant le milieu de la journée parce que les gens sont au travail, mais le soir il y a pas de soleil, donc c'est un peu un problème parce que quand ils ont besoin de l'électricité, c'est pas quand il y a du soleil, donc ils utilisent toujours l'électricité du réseau aussi. Et ça veut dire que en fait, ils peuvent pas vendre leur électricité au réseau électrique pour beaucoup d'argent. Le prix est plutôt bas. Et il y a une différence aussi avec l'électricité qui vient du soleil, parce qu'on ne peut pas juste l'allumer et l'éteindre quand on veut si on n'a pas des batteries, et des batteries qui coûtent très, très, très cher aussi. Donc, ce n'est pas la même chose que l'énergie traditionnelle qui est plus flexible. On peut décider quand on l'allume, quand on l'éteint, quand on l'utilise et quand on ne l'utilise pas. Donc, il y a beaucoup de bénéfices, bien sûr, de ces panneaux solaires, mais aussi il y a des limites. Ça va être intéressant de voir comment ça se développe au futur et comment on peut assurer que nos sources d'énergie restent fiables et sûres aussi.
Nicolas, le chef de Qantas, Alan Joyce, continue ses attaques contre le chef de WA, Western Australia, Mark McGowan.
Oui, tout à fait. Donc, Alan Joyce, c'est un des hommes d'affaires les plus connus en Australie. Il a comparé l'Australie occidentale à la Corée du Nord. Il a dit que la frontière fermée là a divisé le pays, un peu comme la Corée est divisée. Bon, il dit pas que le gouvernement de l'Australie occidentale est une dictature, mais il dit quand même qu'il y a un effet économique, que l'Australie occidentale va perdre du business, de l'investissement, et que ça commence à frapper des compagnies comme Qantas. Il a dit que quand M. McGowan a annulé la décision de rouvrir le 5 février, et avec moins de 2 semaines d'alerte, bah ça c'était très difficile parce qu'il dit que Qantas avait déjà réservé 20 000 personnes pour prendre des vols à Perth. Et les vols étaient prévus, le personnel était payé, et tout d'un coup ça a été annulé. Donc il a dit que c'était un grand coup financier pour la compagnie, pour les Australiens, et pour la confiance que les gens ont en l'Austrie occidentale avec le gouvernement là-bas, et que ça avait coûté Qantas des dizaines de milliers de dollars. Donc il dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Pour sa part, quand même, le gouvernement d'Australie occidentale dit que la première chose qu'eux, ils doivent faire, leur première responsabilité, c'est de protéger la santé des gens qui habitent en Australie occidentale et de minimaliser les problèmes économiques sur l'industrie, etc. Et ils disent qu'en fait, ils ont arrivé à faire ça, ils ont protégé l'économie de l'État, les jobs, etc. Et c'est vrai que quand on voit les chiffres économiques, c'est vrai que cet État-là continue à marcher à plein fond. Mais quand même, M. Joyce dit que si la frontière reste fermée, il y aura des business et des PDG et d'autres qui vont quitter l'État. Et déjà, on a vu Richard Goyer, qui est le chairman de Qantas, du AFL et de Woodside, qui a dit qu'il va être obligé de déménager, quitter Perth pour aller habiter à Sydney ou à Melbourne pour vraiment pouvoir faire du business correctement. Et donc, M. Joyce dit qu'il ne sera pas le seul, qu'il y aura un impact au long terme sur le secteur du business s'il n'y a pas un plan bientôt pour rouvrir la frontière. Donc, tout le monde attend pour voir quand M. McGowan va finalement ouvrir cette frontière.
Merci, Nicolas, pour cette analyse de l'économie australienne. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.